Bonjour à tous, Yvan Levaille, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à Station Ozone pour ce livre. Une minute pour conclure, on va avoir 60 minutes pour en parler. Et une première question, pourquoi ce titre ?
Je regarde d'abord tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir un jour de grande chaleur. Moi, je suis toujours impressionné par les publics et je m'efforce de regarder les gens, hommes, femmes, de voir un peu les générations. Et ceux que je vois ici, ils ont tous un problème avec le temps. Mais ils ont survécu à beaucoup de choses. Et bon, le temps... Temps court, temps moyen, temps long. Alors, je réponds à votre question et je dis, ceux qui sont là, ils n'ont pas l'impatience des adolescents. Souvillons, on était adolescent jusqu'à 25-30 ans. Aujourd'hui, on l'est encore. Et d'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas... chez le nouveau président de la République, des traces d'adolescence et de juvénilité, ce qui en fait un événement, ce qui en fait un homme étonnant. Et je dis ça parce que moi, j'ai un pro... je fais partie des gens qui ont tout à la fois un problème avec le temps et pas de problème avec le temps. Et temps court, temps moyen, temps long. Donc ici, je vois, il y a une majorité de gens, d'hommes, de femmes, qui ont disposé de ce qu'on doit appeler un temps moyen et qui s'approchent doucement, je vois, je regarde, qui s'approchent doucement du temps long. Donc mon titre, je l'ai fait en pensant, je l'ai choisi en pensant à Jean-Baptiste Poquelin et Molière et à Alfred Sauvy. Alfred Sauvy était un économiste sous la Troisième République. Et moi, je l'ai connu sous la Quatrième République. Et c'était un homme extraordinaire. Il était écologiste avant la lettre, et tellement écologiste qu'il était furieux contre le développement. C'était un homme de progrès. Et il était contre la folie de l'automobile et une voiture pour chacun, etc. Ce qui fait que à 101 ans, il prétendait descendre, il habitait Montmartre, descendre à vélo. Il a fait du vélo beaucoup plus que les autres. Et il avait sa belle-mère, il me disait, elle est encore pire que moi ou mieux que moi, elle a 103 ans et tous les matins, elle joue du piano. Bon. Mais c'était rarissime. C'était rarissime des hommes comme ça. Or, nous, je dis bien nous, tous ceux qui sont là, on a une espérance de vie incroyable, incroyable, qui fait que notre problème avec le temps, c'est que la vitesse, le côté toboggan des autres, de tous les autres, y compris de M. Macron, mais pas de sa femme Brigitte, Dieu merci. Donc, on est face à des gens qui, le matin, enfin, entre le matin et le soir, ils ont 24 heures et j'ai le sentiment, quand je rencontre mes propres enfants et petits-enfants, qu'il ne leur reste pas grand-chose le lendemain matin de tout ce qu'on leur a dit et de tous les signaux qu'ils ont perçus dans la journée. Donc moi, j'ai fait un compte. Je me suis dit, voyons, j'ai vécu combien de temps ? Et d'ailleurs, je vous engage, dans le livre, j'engage tout le monde à faire ce compte-là. Arrêtez de donner votre âge en décennies, arrêtez de dire je suis sexagénaire, septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, et vous serez centenaire. Hein. Je vous regarde, vous êtes en forme, donc vous serez centenaire. Et moi, j'ai l'intention non pas d'être centenaire, mais... alors j'ai compté. Compter en décennies, c'est ridicule. Compter les années, Ça a un côté fastidieux. Bonjour, on va fêter. Oui, allô, c'est papa. Est-ce que tu seras là pour mes 50 ans, pour mes 65, mes 70? Bon, ça a un côté. Alors, et les années bissextiles, on les supprime ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de me souhaiter mon anniversaire. C'est ridicule. Et donc, moi, je vais vous casser le moral et vous donner des espoirs. J'ai fait mon compte. Et je viens d'avoir, j'ai eu cette année, 2017, 29 000 jours. Et comptez en jours, c'est une addition. Vous faites ça chez vous, tranquille. Faites l'opération tout à l'heure. Et vous allez compter. Alors, quand j'ai dit ça autour de moi, on m'a dit, mais c'est désespérant. Je dis, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai fait le compte dans l'autre sens. Et il me reste encore, j'ai bien l'intention d'en vivre entre 6 000 et 10 000. Et donc, changer. L'espérance de vie, ça veut tout dire et ça veut rien dire. S'il vous reste 10 000 jours, s'il vous reste un petit peu plus ou un petit peu moins, vous allez vous lever le matin, différent, ils ne sont pas là, donc des jeunes crétins qui ont 15 ans et qui ont l'impression que ça va durer tout le temps. C'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce que je donne comme titre à ce livre bizarre, et encore pas bizarre parce que c'est un livre d'intention, je me suis dit, une minute pour conclure, c'est une phrase que j'entends depuis des années à la télévision, où on dit, alors ils ont parlé pendant une heure et demie, les politiciens à langue de bois, et alors ils n'ont rien dit parce que tout ce qu'ils risquaient de dire allait choquer. Alors ils n'ont rien dit. Puis d'un seul coup, l'horloge a tourné et on leur dit « Ah bah, les Pujadas, les Poivrons d'Arvor, vous avez les Delahousse, les gens qui ont du talent et qui sont encore à la télé, puisque vous avez vu, on vire ceux qui ont du talent pour prendre des gens très jeunes. » Mais ils disent tous, vous avez une minute pour conclure. Ils ont accéléré le rythme. Il vous reste une minute pour conclure. Et je n'ai pas encore entendu un homme politique dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en une minute? Je suis là depuis, j'ai passé une heure, deux heures avec vous, on a fait suer tout le monde parce que vous m'avez posé des questions insipides et des questions qui ne gênent personne et pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Et moi, je n'ai rien dit. Et là, vous me donnez une minute. Eh bien, écoutez, je m'en vais. Ou je vais vous chanter une petite chanson. Ou je vais siffler. Qu'est-ce que vous voulez que je dise en une minute? J'ai rien à ajouter. Ceux qui sont là, etc. Et naturellement, c'est métaphorique, puisque c'était ma façon, moi, de découvrir qu'il me restait mes 5 000 ou 6 000 jours, peut-être 3 000 ou 2 000 jours, peut-être, hein. On ne sait pas quand sonnera l'heure.
Alors, 29 000 jours,
et donc, j'ai dit, une minute pour conclure, c'est un titre qui résume un peu, alors je ne dirais pas la philosophie de cet ouvrage court, mais qui est ma manière de dire, bon, ben voilà, je conclue avec ça, maintenant, je peux mourir. D'ailleurs, je vais tout vous dire, j'avais l'intention d'arrêter ma vie professionnel, je continue de lire les journaux tous les jours parce que je suis malade, je suis un malade mental, je le fais depuis 50 ans, 60 ans, et j'assiste à l'agonie de la presse, sauf de certains bons journaux, je tiens à le dire.
Hein.
Et donc, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui dit bien ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, comme on disait chez Panzani autrefois.
Alors, 29 000 le jour, ça fait un paquet de minutes. Et à l'intérieur de la boîte, effectivement, il y a énormément, énormément de choses. C'est toute votre vie que vous déroulez avec quelques dates repères assorties d'adjectifs. Donc, sérieux à 17 ans, vieux à 77 ans. Vous n'auriez pas d'autres adjectifs pour vous qualifier, à part sérieux, vieux?
Non, parce que...
Bon, alors, hongrois.
Non. Oui, oui, oui. Mais non, mais parce que, d'ailleurs, c'est notre sort commun. Tous ceux qui sont là, si vous regardez une photo de vous quand vous aviez les uns et les autres, si on regarde des photos de soi à Donc on a plusieurs vies dans une vie, ça c'est une banalité. Mais si vous regardez des photos, c'est pour ça que la photo c'est quelque chose de terrible. Alors les gens, de temps en temps, on regarde l'album et on dit « Oh là, ça c'est moi, mais qu'est-ce que je pensais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Oh, ça c'est moi, oh là là, qu'est-ce que j'ai grossi ? Oh, j'ai perdu mes cheveux, oh, je... etc. » Oh là là ! Et puis, bon, on dit, eh ben oui. Alors ça nous ramène à la littérature, aux poètes, etc. Et à la vraie question qui vaut, qui est une question sur le temps. Est-ce que je l'ai perdu, le temps, ou est-ce que je l'ai gagné ? Est-ce que je dois regretter, ou est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est un autre ? Est-ce que c'est mieux pour moi maintenant, ou ça l'était avant ? Est-ce que je dois... encore porter avec moi la peur de la maladie, la peur de mourir, etc. Et qu'est-ce qui me reste comme espoir et comme projet de vie ? Et moi, je veux faire passer un message dans ce livre, c'est que quand on a la chance d'avoir, comme ça, physiquement, la santé, quand on a la chance de vivre en France, j'ai pas besoin de faire de dessin. Quand on a la chance de vivre en France, quand on a la chance d'avoir survécu à tout le monde, à la vie, belle aventure, mais avec sa part de mauvaise aventure, avec sa part de... Alors, les gens, ils sont persuadés, ils disent « Oui, mais alors... » Parce que comme on est passé de civilisation spiritualiste à civilisation totalement matérialiste. Alors, les gens... Alors, la radio d'aujourd'hui vous dit « Carlos Ghosn, vous vous rendez compte, il a déjà... » tant de milliards et il va en gagner plus, etc. Et moi, déjà, quand je vois cet homme-là, j'ai envie de lui poser la question que... Mais, monsieur Ghosn, bon, c'est très bien, vous êtes sans doute très fort, mais qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Avez-vous prévu de... Voulez-vous être le plus riche du cimetière ? Comme on dit à propos des gens. Bon, et de toute façon, pour vous, je vais vous dire une chose, ça va mal se terminer, hein, dans peu de temps. Donc, vous êtes là en train d'amasser des trucs... et de perdre votre temps chez Renault pour vendre des voitures, etc. De toute façon, c'est un objet en voie de perdition. Dépêchez-vous. Bon, qu'est-ce que vous faites de ça ? Oh, j'ai la clé pour M. Ghosn. Moi, quelqu'un de son conseil d'administration a dit sur une radio, parce que j'écoute toujours les radios, je lis les journaux, et je retiens les phrases que disent les gens et qui me surprennent. Et il y a un membre du conseil d'administration qui est passé sur une radio hier et qui a dit « Mais Ghosn, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Il a un ego tellement développé qu'il veut la puissance. Et cette puissance, il est persuadé qu'il l'obtient en étant... voilà. Mitsubishi, c'est moi. Les voitures japonaises, c'est moi. Les voitures, etc. Paf. J'ai tant de milliards. Quand vous regardez qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie entre M. Bolloré, entre M. Pinault et le patron de LVMH, tous les deux, ils ont envie d'être plus riches l'un que l'autre. Il y avait un Belge aussi qui était dans la compétition. Alors, il y en a un qui achète des vins dans le Bordelais, et l'autre, il dit « Ah, il a acheté des vins, j'achète des vins. Bon, je veux être l'empereur du luxe. » Tu veux être... Et l'autre, il veut être l'empereur du luxe. « Bon, ben moi, j'achète des tableaux. Moi, je fais des expositions. Moi, je fais un musée. Moi, je fais, etc. » Bon, c'est une course à la puissance. C'est pas seulement une course à l'argent. Et tout le monde dit, bon, qu'on perd sa vie à la gagner. Encore faut-il la gagner. Donc, j'ai dit, c'est ça ma petite philosophie. Et j'ai fait 200 pages là-dessus pour comment ? J'aime plus le mot partager parce que maintenant, même les gens qui ne partagent pas, ils font des discours de langue de bois pour dire « Oui, c'est le partage, etc. » Arrête. Moi, c'était pour mettre ce que j'ai encore jamais dit parce que l'heure n'était pas venue. Et donc, dans ce livre, je dis « Part de vérité » d'un, alors je ne dis pas d'un vieux journaliste, parce que, bon, d'abord, ceux de ma génération sont encore là, et sont vieux aussi. El Kabach, il est très vieux. Il est plus vieux que moi, un peu. Bon, Michel Cotard, alors El Kabach n'est pas délicieux, Michel Cotta a exactement le même. J'ai l'âge de Michel Cotta. Pardon, c'est une femme, mais c'est vraiment, elle est, vous voyez, formidable. Alors bon, je veux rien dire contre la profession parce que j'ai aucune raison de dire, oh, c'est très bien, ça va comme ça, j'entretiens de bonnes relations avec eux. Mais je dis, je suis un vieil observateur. Voilà. Il y a eu le nouvel observateur, je suis un vieil observateur. Et le vieil observateur continue d'observer ce qui est arrivé cette année, il y a quelques mois, c'est-à-dire, alors appelons ça le dégagisme, appelons ça, les imbéciles ont dit, oh là là, oui, ils mettent un très jeune, ils veulent virer les vieux. Mais non ! Brigitte Macron, elle a... D'abord, c'est une femme délicieuse. Bon, vous avez le droit d'avoir voté autrement. C'est même pas, c'est pas le sujet, c'est pas important. C'est pas important. Mais Brigitte Macron, elle redonne la fierté à toutes les femmes de 60 ans et de 70 ans et de 50 ans à qui on a dit, dis donc, toi, t'as pas vu, là moi, j'engage dans mon entreprise des femmes qui ont des petites ménettes d'aujourd'hui, tu vois. Alors, je commence à 25 ans, je les garde jusqu'à 30, 35 ans, je les mets sur la voie de garage et je les vire à 45. Parce qu'on n'a pas besoin d'une femme de 45 ans. Eh bien, il s'est passé quelque chose en France il y a un mois. Il y a un président de la République qui a 39 ans et ce n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est pour ça que les gens l'appellent Jupiter, Bonaparte, Zeus, Jésus. Non, il est un peu plus vieux que Jésus.
Plus vieux que Jésus, quand même.
Attends, donc il est plus vieux. Mais ce couple-là est extraordinaire. Et il fait vieillir le Poutine ridicule, le Donald lamentable. Et là, au match de football avant-hier, moi, je suis désolé, je regarde la télévision comme un malade mental. Je n'écoute pas ce qui se dit, mais ma femme n'avait pas vu. Elle me dit, « Ah, t'as regardé le match ?» Je dis, « Oui, j'ai regardé le match. » Parce qu'il y a eu quelques inserts, et j'ai vu Macron à côté de Theresa May. Et ben je suis fier d'être français, d'avoir Macron et de ne pas avoir Theresa May. Non pas, elle était charmante, mais fatiguée, épuisée. Et lui, il avait les réactions de mes propres enfants. Il a l'âge de mes fils, Macron. Ben oui, c'est comme ça. Et il était comme mes fils au football, quand il y a un vrai match important. Il y avait sur lui la joie juvénile. Alors, si le peuple français pouvait être juvénile et en même temps considérer que la jeunesse, tout le monde dit « Ah, la jeunesse, quelle valeur !» Tu parles, c'est une valeur, comme disait Juppé, très provisoire. Ça ne va pas durer. Ne l'oubliez jamais. Mais ça ne sert à rien de le leur dire. Ils s'imaginent que... mais non, ils ont tout réinventé. Il faut les laisser réinventer. Donc moi, je n'écrirai jamais de lettres à la jeunesse. Je leur dirai simplement, temps court, temps moyen, temps long, rappelle-toi d'où tu viens. Comme ça, tu auras peut-être l'idée de voir où tu veux aller et pense que ce qui t'arrive aujourd'hui, où tu es en pleine forme, etc., ne gâche pas le temps que tu vis maintenant. Parce que ton présent et ton hyper-présent, tu vas faire comme nous tous, on a perdu du temps avec des gens pas intéressants, on n'a pas lu assez de livres, on n'a pas sélectionné. Vous voyez l'intérêt d'être âgé. Moi, j'ai 80 ans, et maintenant, il y a des dîners, des réunions. Maintenant, je choisis. Si on ne m'apporte rien, je n'y vais pas. Il fut une époque où j'allais dans une salle de cinéma, le film était nul. Vous êtes là comme ça, puis vous dites quand même, j'ai payé la place. Peut-être que ça va s'arranger vers la fin, etc. Ou une pièce de théâtre qui est nulle. Ou un livre qui est nul. Bon, non, écoutez, au bout de 10 pages, on se rend compte si on y est ou si on n'y est pas. On abandonne le livre et on en prend un autre. La salle de cinéma, maintenant qu'on sait d'où on vient et où on va, et qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on sélectionne. On a perdu des amis en route. Eh ben oui. Il y a des gens en qui on croyait, on avait confiance en eux, ils nous ont trahis, eh bien on les laisse. On vous propose un dîner qui menace d'être emmerdant, vous n'y allez pas. C'est François Giroud qui disait « Quand je pense que quand on est jeune, on veut avoir des dîners, et puis quand on vieillit, on veut plus de dîners. » Voilà, il y a tout ça dans mon livre.
Oui, mais même, et davantage, je vais vous dire, davantage. Vous n'avez pas répondu à ma question hongroise, puisque vous parlez de d'où on vient. Nous, on vous connaît, RTL, Europe 1, bon, on vous connaît comme si vous étiez né journaliste.
Oui, mais... alors, non mais je vais y venir parce que, pourquoi j'ai dit dans ce livre des choses que je n'ai jamais dites, j'ai décidé de le faire parce que ça n'engageait plus. Si vous voulez, je me méfie, je lis les biographies, je lis les autobiographies, je lis beaucoup plus de livres d'histoire que de livres d'actualité. Par exemple, là, les librairies ont été pleines de livres politiques. Bon, certains écrivaient, moi je connais la liste, je pourrais l'adresser, des hommes politiques qui écrivent vraiment. Ils ne sont pas très nombreux. Et ceux qui écrivent vraiment, curieusement, ils écrivent bien. Et allez savoir pourquoi, dans la Ve République, De Gaulle a écrit. De Gaulle. Merveille de qu'on l'ait aimé ou pas aimé, voter pour, voter contre et tout ça. Mais écoutez, il a le sens des mots, le sens de l'écriture. Il est parfait. Parfait. Bon. L'attitude de Mitterrand devant le texte. Moi, je l'ai raccompagné un jour à l'Assemblée nationale. Il était très tard. Il n'était pas encore président de la République. Et il dit, vous pouvez me ramener jusqu'à... mais je passe d'abord à l'Assemblée. Je lui dis, à cette heure-ci ? Alors il me dit, oui, parce que je veux voir comment on a repris mon discours de cet après-midi. C'est-à-dire, et là, je lui dis, mais alors, vous doutez de l'orthographe ou de la... Ah, il dit, oui, je ne veux pas que dans mon discours, on le reproduise avec des fautes de syntaxe. Et il allait, à minuit, le soir, corriger son discours. Autrement dit, il avait, avec le livre, avec le respect... Je suis allé visiter le petit musée, là, c'est une parenthèse, qu'on trouve, en Aquitaine. Et j'ai vu une femme qui tient ce musée chez son père, au fond, et près du cimetière où il repose, à Jarnac. Et là, il y a la bibliothécaire qui me dit « Oh, il faut que je vous montre quelque chose. » Et elle m'apporte un cahier. C'était le cahier de lecture, le programme de lecture de l'étudiant Mitterrand. Et il y avait 1934, lire. Et il y avait la liste des livres qu'il se promettait de lire dans l'année, mais c'était un côté très scolaire. Je veux lire ça. Oh, je lui dis, écoutez, laissez-moi. Mais il me dit, regardez, vous pouvez faire une photo. Je dis, non, je reviendrai, je vais simplement prendre ce qu'il lisait en 1929, ce qu'il lisait en 1930. Et il avait un programme de lecture. Bon, De Gaulle a écrit, eh bien, Mitterrand a écrit, alors, de façon plus romantique, plus lyrique. Disons, quand on lit Mitterrand, on est à Nancy. Quand on lit De Gaulle, on est à Metz. C'est carré, simple, formidable. Et puis les autres... alors c'est curieux parce que le maire a écrit, il est ce qu'il est, mais il a écrit et une histoire, c'est Ma vie sous Sarkozy. Et c'est très bien. Et puis alors les autres, ils ont demandé qu'on leur écrive, alors ils ont peut-être lu... j'en sais rien. Bon, résultat, les gens ne les ont pas achetés. Ils ont compris que c'était de la langue de bois. Voilà. Et les gens n'ont pas eu le temps de lire les livres politiques parus cette année parce que, de toute façon, ils n'en sont pas. En revanche, les gens âgés qui se disent « Mais personne ne parle du futur un peu sérieusement. Et est-ce qu'il faut en parler de façon pessimiste ou optimiste? Est-ce que j'ai le droit d'être optimiste pour mes enfants ou pessimiste ?» Eh bien, moi, je vais vous donner, pardon, hein, je le dis ici, il y a Marc Auger qui a sorti un petit livre, qui est un petit livre sur les terriens, 132 pages, un petit livre optimiste, utopiste, optimiste, mais dans lequel il dit des petites choses. Une chose, que quand j'ai lu ce livre, les 132 pages, Je me dis, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. En 132 pages, il dit des choses formidables. Il dit, un, la lutte des classes, c'est fini. Vous l'avez remarqué. Hein. La lutte des classes, c'est terminé.
Donc, bon. C'est pas un scoop.
Là, oui. Et lui, il dit, mais là, on entre dans un monde où il y a trois catégories de gens. Un, les puissants. Deux, les consommateurs. Trois, les exclus. Voilà. Et bien moi, quand Tom dit ça, je dis, mais pourquoi j'y avais pas pensé à ça? Et même chose, vous vous appliquez ça pour vous. Vous dites, mais je connais... Et je suis dans quelle catégorie, moi? Bon, alors là, je vous regarde. Vous n'êtes pas parmi les exclus. Vous non plus, madame Beth, vous n'êtes pas exclus. Est-ce que vous êtes parmi les puissants? C'est possible. C'est possible.
Ça se saurait. Attendez. Ça se saurait.
Attendez. Mais on est parmi les consommateurs. Alors, il y a des consommateurs puissants. Mais on est parmi les consommateurs. Et c'est grave. Parce que si ça continue comme ça, on va continuer, non pas à consommer, c'est pas le problème de consommer, mais on sait parfaitement maintenant ce que vous avez acheté hier, ce que vous avez mangé avant-hier, comment vous êtes habillé, où vous allez passer vos vacances, d'où vous allez, et clac, clac, les fichiers sont croisés. Et donc, quand on s'adresse à vous, vous devenez les femmes de 50 ans, les ménagères de 50 ans qui regardent la télévision, et on sait quelle chaîne, et à quelle heure, et comment, et pourquoi. Et donc, du coup, on vous envoie, et on achète des listes de gens qui vous appellent en disant « Bonjour madame, mais votre voiture, là, vous l'avez achetée il y a 2 ans, etc. » Moi, la consommation me passionne, la presse me passionne, la lecture me passionne. Et je me dis, il faut que j'écrive un livre avec ma part de vérité, il faut que je raconte que, et je peux le faire que maintenant, de 0 ans à 7 ans, j'ai eu une triste vie, mais ma mère me dépose avant de mourir dans un pays où les Allemands sont là et vont arriver, et je suis à l'assistance publique pendant l'exode. J'ai 2 ans et demi. Voilà. Ma mère franchit au pire moment, mais elle a bien fait. Elle me conçoit avec un Autrichien dont j'ai aucune trace, dont je ne sais absolument pas qui il est, comment il s'appelle, d'où il est, etc. Elle a 32 ans. Donc, j'ai pas de frère, pas de sœur, pas de rien. Y a une femme de 32 ans, bourgeoise, petite bourgeoise hongroise, née en 1903. Et au lieu de rester à Budapest, comme les cigognes, enfin, elle remonte, elle essaie de passer. J'ai en héritage son passeport, c'est mon seul héritage, et sur son passeport, je vois que j'ai une existence, et en venant à Paris, et en passant la frontière, le 26 février 39, il faut le faire quand même, le 26 février 39, il y a le cachet de la poste nazie, le cachet administratif de... Et là, elle erre entre Paris, la Belgique et tout, et elle réussit à se faire reconduire son visa au moment de la déclaration de guerre, et elle meurt à l'hôpital Cochin. Voilà. Et donc, je me retrouve, moi, bébé, à l'assistance publique, et je dois ma vie à des femmes qui ont pris, pas seulement moi, mais les bébés que j'étais, pendant que toute la France était sur les routes, pas toute la France, mais les gens fuyaient Paris, Paris, ville ouverte. Je vous signale que le 14 juin 1940, à Paris, il y a 4 divisions blindées allemandes qui cernent la capitale, et il y a 3000 soldats qui sont entrés à toute vitesse dans Paris vide, où seuls demeurent les pauvres, les gens à l'assistance publique, les malades, ceux qui n'avaient rien pour aller sur les routes et courir, aller vers passer la Loire, aller vers Bordeaux, puis fuir. Et Paris est ville ouverte, et heureusement d'ailleurs, Paris ville ouverte. Et moi, il y a des femmes que je ne connaîtrai jamais qui me prennent dans leurs bras et qui me nourrissent. Voilà. Mais je suis né le 18 mars 37. Le 18 mars 44, j'ai 7 ans, je suis sauvé, je suis en France, à Paris, 18 mars 44, on attend la libération des Américains, etc. Pas moi, on ne sait pas. Moi, je suis, il y a le maréchal Pétain, ici, je crois qu'il y a encore le maire qui est M. Adrien Marquet, un ami de Vichy, et puis à Vichy, il y a le bon. Moi, j'étais enfant, à l'école primaire, je trouvais le maréchal Pétain. Il avait de l'allure sous son képi, belle tête, enfin, il était séduisant. Et je me trouvais un peu à Bressuire, où les gosses malheureux à Paris, il y avait des braves gens en Vendée qui les accueillaient. Donc je viens, puis je reviens dans la capitale. Et le 18 mars 44, je suis à Paris. Seulement Adolf Eichmann, le 18 mars 44, il a 34 ans. Il est à la frontière de la Slovaquie et de la Hongrie. Il réunit ses types et il leur fait un discours en disant « C'est lamentable ce qui se passe. La solution finale, on devait liquider 18 millions de Juifs, mais... Je ne sais pas comment la guerre va tourner, mais on ne l'aura pas fait. Tout ça à cause des lâchetés, une administration lamentable. On n'a pas fait le travail qu'on aurait dû faire. Moi, je vais vous montrer comment ce qu'on va faire à Budapest. Il n'y aura pas de distribution d'étoiles juives et de... Non, ça va être beaucoup plus simple. Effectivement, c'était simple. Il y avait 600 000 Juifs en Hongrie qui étaient restés, les malheureux. Entre... le 18 mars 44 et la fin de la guerre, c'est-à-dire le printemps 45, il réussit à en liquider, il faut dire que c'était pas loin, 475 000. Voilà. 475 000 dans Auschwitz qui tourne à plein régime. Et moi, j'ai un témoin, si je puis dire, Simone Veil, la grande, la merveilleuse, la magnifique Simone Veil, qui me dit, oui, à Auschwitz, c'est pas compliqué. Elle dit, on voyait arriver les Hongrois. Elle débarquait du camion, hommes, femmes, enfants, il n'y avait même pas de sélection, du camion à la chambre à gaz et au four crématoire. Et on les voyait passer, etc. Nous qui avions la chance d'avoir un petit métier, d'être là, protégé. Et elle, sauvée, grâce à une Polonaise, etc. C'était... Alors...
Et c'est pourquoi ce livre est dédié à...
Alors je raconte un peu cette enfance, mais... Je reste optimiste et je dis, derrière ça, j'ai eu la plus heureuse des... Voilà. Donc, Costa Gavras m'a écrit un mot et j'ai seulement reçu le mot hier. Et... il me dit, mais je ne savais pas tout ça. Ben, je lui dis, non, je ne te l'ai jamais dit. Et je lui mets un message aujourd'hui. Et j'ai trouvé une lettre bouleversante, parce qu'il me dit, mais je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que tu avais eu cette vie-là. Et je n'avais pas envie de raconter ça. Parce que c'est une chance de survivre par rapport à ceux qui ne sont pas revenus. Voilà, c'est une chance. Et donc je dis, bon, il y a plein d'enfants orphelins. Moi, j'ai été élevé, je veux pas trop, j'en parle pas, mais j'en parle dans le livre. J'ai été élevé par une nourrice qui est devenue ma tutrice, Et pour ceux qui lisent un petit peu, cette femme, je ne sais pas pourquoi, si elle avait déjà une fille, si elle me haïssait ou si elle m'aimait trop, j'en sais rien. Toujours est-il que enfant ou adolescent, quand j'ai lu Vipère au poing, j'ai trouvé le nom de ma tutrice et je l'ai appelée Folcoche. Voilà.
Alors c'est pourquoi le livre est dédié à votre mère, maman Lily,
ouais.
Et aux 60 000 enfants juifs cachés pendant la guerre et à tous les déportés qui ne sont pas revenus. Vous nous avez amené jusqu'à 7 ans, donc l'âge de raison, et vous écrivez « À l'âge de raison, j'avais une vision paradoxale des religions, j'étais protestant à Paris, catholique à la campagne et juif nulle part ». Là aussi, c'est encore une...
Oui, ben oui, parce que j'ai eu la chance de parler de ça avec Lustiger un jour, et de découvrir, et même avec un homme absolument délicieux, un copte... par son père et musulman par sa mère, un homme absolu, Ali El-Samam, qui était le collaborateur de Sadat, Anwar El-Sadat, l'Égyptien Anwar El-Sadat. Et bon, un jour, on a parlé de religion, et je lui ai dit, moi, tu sais, au Caire, et je lui ai dit, moi, tu sais, j'ai les trois religions. Ah bon ? Les trois religions, comment ça? Je dis, ben oui. Ma mère était juive, donc je suis juif. Pour m'éviter un certain nombre de choses, elle me fait baptiser catholique. Donc, pour les catholiques, je suis catholique. Stiger m'a dit, mais c'est ton baptême, c'est le baptême, c'est le plus important pour les catholiques. Ça en fait deux. Et ma tutrice habite à Paris, dans le 20e arrondissement. Elle habitait 191 rue des Pyrénées, et au 185, il y avait une église réformée, protestante, avec un pasteur merveilleux qui s'appelait Jean Casalis, et qui délivrait des certificats de baptême à tour de bras. Moi, il n'avait pas besoin de me délivrer un certificat de baptême, mais ma tutrice avait une fille faite avec un conçu. Avec un juif d'Afrique du Nord, c'est le comble, qui était prisonnier. Et donc, elle a pris peur, et elle se dit, ma fille, parce que c'était bien fait, hein, sous Pétain, et c'est Pétain lui-même qui a corrigé le statut des juifs, avant que les Allemands le lui demandent. Il faut le savoir. J'ai vu le document, on a l'original au mémorial de la Shoah. Ben, je suis au conseil d'administration du mémorial de la Shoah, parce que la mémoire... C'est notre richesse la plus grande. Voilà, tant qu'on a de la mémoire. Alzheimer, c'est terrible, mais notre vraie richesse, c'est ça. Voilà. Si M. Carlos Ghosn était dans la salle, je dirais, avez-vous de la mémoire? Avez-vous une bonne mémoire? Bon. Oui, il a celle des chiffres, mais est-ce qu'il a celle des lettres? Bon. Et Casalis a délivré un certificat de baptême pour la fille de ma tutrice. Et donc... Le temple était à côté, et ma tutrice, après la guerre, elle a été quand même... elle trouvait que le temple protestant, c'était formidable, ils étaient vraiment très bien, et alors, tout le monde au temple. Moi, l'enfant de l'assistance, un peu juif, un peu catholique, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien, donc je suis allé jusqu'à enseigner à l'école du dimanche. Voilà. Et Ali El-Samam me dit, bah, il te manque une religion, l'islam. Alors je lui dis, oui, mais qu'est-ce que je devrais faire? Il dit, tu viens avec moi, on met une grande djellaba blanche et on monte sur, ça s'appelle le mont Arara, tous ensemble. Alors je dis, c'est tout ce qu'il y a à faire? Il dit, oui. Non, il me dit, il faut que tu renonces aux autres religions. Alors là, j'ai dit, écoute, j'en ai déjà trois, ça suffit. Tu peux toujours courir, et j'ai arrêté sur ce plan.
Mais c'est intéressant d'avoir toutes ces...
Mais, comment dire, j'ai passé de longues heures dans les églises, pendant la guerre et après la guerre. Mais c'est une époque formidable. Quand j'étais à Bressuire en Vendée, tous les soirs, j'étais chez des gens... des épiciers, en gros, catholiques et maréchaliste. Et alors, moi, j'étais enfant, je venais là un peu chez eux, bien nourri. Hein. À Paris, on ne mangeait pas bien, mais là, à Bressuire, vraiment, c'était idéal. Et le soir, il fallait se mettre devant le prie-Dieu, et puis on faisait la prière, et il y avait le portrait du maréchal là. Et il y avait des Allemands qui habitaient chez eux, parce qu'ils étaient à l'aise, et il y avait Hans, qui passait tous les soirs, et qui disait « Gute Nacht !» Il descendait pour cirer ses bottes, et voilà. Et donc, enfant, j'ai eu cette vision-là, et à l'église, c'était quand même un... moi, ça me divertissait, l'église, comment dire. Sauf les vêpres, je trouvais que c'était un petit peu long. Et mon moment préféré dans l'église, c'est quand le prêtre montait en chaire et prenait la foule en témoin, et je me disais, oh là là, qu'est-ce que je ferai plus tard? Ah, ça doit être bien d'être curé. Voilà.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu journaliste, chroniqueur.
Oui.
Il y a un peu de ça, quand même.
À la limite, c'est une forme de journalisme spiritualiste. Et je pense que, je ne sais pas à quel âge je suis devenu tolérant, je dois le dire dans le livre, j'ai été très tolérant. Et mon itinéraire, mes choix politiques se sont toujours accompagnés, heureusement, quand je voyais Chirac, je voyais Balladur. Quand je voyais Chaban, je voyais Pompidou, mais il était méchant, Pompidou. Et entre Pompidou méchant, mais je ne savais pas qu'il était malade, et Chaban, c'était formidable. Moi, j'ai adoré Jacques Chaban-Delmas. Bon. Et d'ailleurs, ils sont trois que je suis allé voir sur leur lit de mort. Et trois. Trois seulement. Je vais vous donner les noms, hein, tant qu'à faire. Le premier, c'est Pierre Mendès-France. Parce qu'à 17 ans, on n'est pas sérieux à 17 ans, moi je l'ai été, je me suis passionné pour cet homme-là. Voilà. Pas parce qu'il était juif. Et quand il est le juif Mendès-France, je ne savais pas. Et ça ne m'intéressait pas. C'était pas mon problème. Mais c'était... Il y avait une vertu qui passait chez Pierre Mendès-France. Et j'ai vu rue du Conseiller Collignon, j'ai vu un homme apaisé. Formidable. Je suis allé aussi voir Mitterrand tout seul sur son lit de mort, apaisé, lui aussi. Et Micheline Chaban-Delmas m'a, si je puis dire, invité à aller voir Jacques Chaban-Delmas. Et comme je passe beaucoup de vacances au Pays Basque chez ma belle-mère, je vais chaque année à Asquin et j'apprécie la sobriété de la tombe de cet homme-là. Voilà. Et je me souviens de ce qu'il me disait, jeune homme, à Matignon. C'était... Alors... Si vous voulez, Yvan Levaille, un conseil pour vivre main, un verre de Bordeaux le soir dans la journée, un verre de Bordeaux, pas davantage, et puis la vie, le sport, etc. Bon, belle morale quand même, plutôt pas mal. Bon, Juppé, non, je veux dire les autres. Donc les trois, c'est ça, Chaban... Oui. Chaban,
n'enterrez pas Juppé.
Chaban, Mitterrand, Pierre Mendès-France. Et Juppé, moi j'ai découvert Juppé en lisant La Tentation de Venise. Et je l'ai interviewé. Et on fait partie, moi, la classe journalistique, puisque j'y ai appartenu pendant un demi-siècle, la classe journalistique. Moi, je fais partie des gens qui écrivent et je souligne. Et j'ai du stabilo et je prends et je lis. Et je n'interroge jamais un homme politique sans lire complètement. Et d'ailleurs, mon ex-femme fait exactement la même chose. Je la voyais préparer 7 sur 7 à Anne, C'était absolument incroyable. Je lui disais, mais arrête de bachoter. Et elle disait, oui, mais tu te rends compte, c'est le ministre des Finances, il faut que demain, s'il me dit... Et je lui dis, oui, mais on ne te demande pas d'être ministre des Finances, alors tu vas arrêter, etc. Donc, voilà. Et j'en profite aussi pour dire que son émission « Questions à domicile » est née chez Jacques Chaban-Delmas, à Paris, près du stade, près de la pelouse d'Auteuil, rue du Docteur Blanche. On s'est trouvé un soir, Anne et moi, avec deux amoureux, une image du bonheur, Jacques et Micheline. Voilà. Et ce soir-là, ils nous ont sorti les photos, ils ont ouvert les tiroirs et tout ça. Il y avait deux... Et ce n'était pas un jeu, c'était deux, un homme et une femme qui s'aimaient ou qui avaient l'air de s'aimer. Et quand on est sorti, on est rentré, on n'habitait pas loin, rue du Maréchal Monory, à pied. Je dis à Anne, je dis, écoute, il s'est passé... Quel dommage que ce qu'on vient de voir ne soit pas passé à la télévision. Elle me dit, mais à la télévision, on ne peut pas faire ça. Mais je dis, mais attends, tu sais pourquoi on ne peut pas faire ça à la télévision? On ne peut pas faire ça à la télévision parce que, à la télévision, les gens, à l'époque, aujourd'hui, ils ont gagné en naturel. Mais ils n'étaient pas naturels. Et je dis, mais le plateau de télévision, c'est un bloc chirurgical. Vous avez les projecteurs dans les yeux, vous ne voyez pas les gens qui sont en face de vous. Et les types, ils sont raides. La maquilleuse revient et dit, elle refait le petit... Juste pendant la publicité ou je ne sais quoi, elle remet le petit truc de maquillage. À tout moment, on leur fait comprendre. Je dis, Anne, il faudrait emmener les caméras chez eux. On obtiendrait un discours de plus vrai. Voilà. L'autre clé du livre, c'est... Si on pouvait aller un petit peu plus loin dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Puisque la télévision, ce sont des images, montrez les images. Retirez-moi l'animateur. Ou quand vous avez un document, laissez-le passer et ne coupez pas. Cut ! Là, je veux dire, on a un document très émouvant. Alors on le met et tout de suite derrière, paf, la publicité, etc., qui vous fait retomber. Comment voulez-vous que... passe quelque chose à la télévision, l'émotion immédiatement zapping. Nous, ça va, notre génération, mais l'enfant qui... Qu'est-ce que tu as vu là? Qu'est-ce que tu as entendu? Moi, je ne supporte pas la nourriture qu'on donne en images, en son et avec cet appareil-là aux jeunes générations qui n'ont même plus le temps de la méditation. Eh bien, c'est comme ça qu'est né Question à domicile. Question à domicile, c'est né chez Jacques Chaban-Delmas et Micheline Chaban-Delmas. Et il y avait... Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes et que l'image a changé. Mais moi, je me suis posé une question sur l'Aquitaine et sur les Bordelais, puisque beaucoup d'entre vous, vous l'êtes. Ma dernière épouse l'est aussi. Et je lui ai dit, quand je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans, je lui ai dit, en venant très souvent à Bordeaux, je lui ai dit, mais il y a quelque chose ici, dans cette région. C'est pas une région comme les autres. C'est pas une région comme les autres. Pourquoi vous êtes plus civilisé? D'où ça vient? Les brutes sont au nord de la Loire. Voilà. Non, mais c'est
là,
vrai.
Vous allez parler à un public convaincu.
Comment?
Ils sont
non,
convaincus.
Non, mais c'est pas pour vous convaincre. Moi, je dis, je suis fasciné par la manière... Il y a d'ailleurs des mots du vocabulaire. Moi, ma femme, il lui arrive de dire « passe-moi une gueille ». Je lui dis « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Non, mais c'est vrai. Il y a des mots qui n'appartiennent qu'à vous. Il y a une langue qui est propre. Et il y a... Un classicisme, une élégance qu'on ne trouve pas au nord de la Loire. Exemple, le lourdeau, il n'y a qu'à Paris qu'il y a ça, le lourdeau qui s'est permis de bousculer et de frapper Nathalie Kosciusko-Morizet. Pardon, j'ai l'air de ne pas parler du livre, mais il y a ça dans le livre. Après, je vais vous en parler des deux Simone, si vous voulez, parce qu'elle veut que je lui parle des deux Simone. Écoutez, Nathalie Kosciusko-Morizet, j'espère qu'elle va être élue, du coup, Moi, c'est ma circonscription. Donc, je vais voter pour elle. Parce que elle a été frappée comme Nicole Notat, l'ancienne dirigeante de la CFDT, avait été frappée par des troupes d'un syndicaliste de force ouvrière, dont je ne dirai pas le nom, mais pour lequel il y a eu un procès, parce que Plantu, dans son dessin du monde, l'avait représenté avec, non pas un brassard nazi, mais enfin, ça avait l'air quand même, un brassard. Il n'y avait pas la croix gammée, mais il y avait écrit FO. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ces syndicalistes avaient frappé Nicole Notat. Bon, chaque fois, ce sont des femmes que ces gens-là frappent. Bon, je sais qu'il y a des brutalités ici, comme partout. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas candide. Mais il y a un fond. Est-ce que c'est l'Angleterre? Est-ce que c'est... Est-ce parce que les vieilles familles bordelaises regrettent leur comportement, vous savez, quand on s'enrichissait ici? Ah, vous voulez que je sois méchant avec les Bordelais? Je peux. Hein.
Non, je veux surtout que vous ne soyez pas méchant avec moi et je ne veux pas que vous m'obligiez à dire « Vous n'avez qu'une minute pour conclure ».
Ah oui. Eh bien oui.
Parce qu'il nous reste, voilà, cinq minutes.
Je vous
minutes.
En prie.
Et ce que je sais plus où on en est dans les questions. Donc, c'est 200 pages, n'est pas compté, mais je pense qu'il y a plus de 2000 noms cités parce qu'il y en a au bas mot 10, 20, 30 par page. Enfin, c'est énorme. Il y a deux noms qui reviennent et dont j'aurais voulu parler, Victor Hugo et François Mitterrand, mais vous en avez parlé. Mais vous dites, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est une phrase d'Éluard et vous avez fait énormément de rendez-vous. Mais il y a aussi quelque chose dont on n'a pas du tout parlé. C'est régulièrement, tout à trac, c'est des chansons. Et il manque quelque chose dans ce livre, c'est l'air. Il y a les paroles de chansons. Quand vous rencontrez un ami ou Lynn Renaud, ben, c'est votre cri de ralliement, vous lui chantez une chanson. Alors il y a certaines, je connais. Bon, l'hymne des barbus, par exemple, je ne connais pas l'air.
Si, ben, je...
Non. Oui, ça nous ferait plaisir que vous.
Vous voulez. Alors, non, Lynn Renaud.
Non, ça c'est page 110, mais page 108, 50, c'est l'hymne des barbus.
L'hymne des barbus. Alors, il y avait, écoutez, Pierre Dac et Francis Blanche sont des génies du comique, de l'humour. Moi, Pierre Dac, j'ai une passion pour Pierre Dac. J'ai connu, c'est drôle parce que j'ai approché Francis Blanche, mais je n'ai jamais rencontré Pierre Dac. Bon. J'adore le sketch du tsar Rabin Ramat Duval. Et oh, mais l'hymne des babus, je n'ai pas besoin de lire les paroles.
Vous êtes cap.
Et alors, il avait fait un feuilleton radiophonique sur Paris Inter qui passait à 1h15, 1h20. Et ça s'appelait Signé Furax. Alors, Furax, c'était un affreux qui faisait disparaître des gens, des professeurs d'université, des professeurs comme vous, Madame Bess, c'est ça, mais des hommes. On faisait disparaître que des hommes.
Alors.
Et des barbus. Et ces barbus, on les... Alors, les lycéens dont j'étais, on était invités à... Moi, j'étais à un lycée Turgot, et j'avais un condisciple qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Daniel Prévost, et qui est un comédien remarquable, qui est un comique d'aujourd'hui, d'ici. Et lui, il avait un professeur de français qui s'appelait Grimère, et qu'on appelait Barberousse. Il avait une magnifique Barberousse. Le malheureux, il est mort. Le week-end, il cultivait ses roses et il a attrapé le tétanos. Et un jour, on a perdu notre Grimère. Et ce Grimère, il était... Tout le monde riait avec lui parce qu'il était drôle. Il trouvait Victor Hugo cucu. Et il disait, mon Juju, alors il disait, c'est cucu. Il détestait Victor Hugo. Et on envoyait à Pierre Dac et Francis Blanche à la radio, on envoyait les noms de nos profs et ils les donnaient quand ils étaient barbus. Et Furax venait, les emportait et il les transformait en babus, c'est-à-dire en robots. Ils allaient dans un pays qui s'appelait le Filékistan, dont la capitale s'appelait Yadupour, et leur hymne national, puisque vous le voulez, c'était « Tout le monde y pue, il sent la charogne, il n'y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne, tout le monde y pue, il fait mal au cœur, Jacques Legrand, Babu, Calabono, Deur, Chaviro, Rotantacha, Chami Pataro, Rogria Patacha. Voilà, c'est
merci.
Ça. C'est bien ça. Bon. Alors, Lynn Renault, c'est beaucoup mieux. Là, j'étais à Europe numéro 1 et je vois pour la première fois, j'étais invité. Évidemment, j'ai. Comment dire, une vie où moi je me suis enrichi au contact des gens que j'ai rencontrés. Voilà, je leur ai volé du feu, je leur ai. Et donc, alors, je n'ai pas sympathisé avec tout le monde, mais bon, ma femme qui a 20 ans de moins que moi, elle me dit « Mais tu as connu un tel ?» Je dis « Oui, oui, bien sûr, oui. »« Ah bon ?» Et quelquefois, elle me dit « Et Jacques Brel, tu l'as connu aussi ?» Alors, je dis « Écoute, va savoir pourquoi. » Je n'ai jamais rencontré Jacques Brel. En revanche, Brassens, Bécaud, Edith Piaf, tous. Mais forcément, la radio puisait chez ces gens-là, et ces gens qui étaient, parce qu'on a eu des grandes années, hein, je suis désolé, hein, mais on a eu de très grandes années, hein, de production de gens formidables. Bon, Brassens, moi j'ai une passion pour Brassens. J'ai découvert Brassens à 17 ans. Il avait écrit un livre très érotique pour les gens de
Donc vous n'étiez pas que sérieux à 17 ans.
Qui s'appelait La Tour des Miracles, mais avec ses petits personnages qu'il a fait revenir ensuite en chanson et tout. Alors Lynn Renault, la première fois où je la vois, moi j'avais dans. C'était 10 ans, 15 ans après que j'ai entendu à la radio. Parce que j'ai écouté la radio enfant, vous n'imaginez pas, comme un fou. Et les chaînes de service public que j'écoutais, mais aussi les chaînes commerciales. Radio Luxembourg, où il y avait le passe-temps des dames et des demoiselles. Et un artiste qu'on entendait tous les jours, André Claveau. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait K1, K1. Da-da-da, pa-pa-pa, Claveau, incroyable. Et les femmes adoraient cet André Claveau. Tout comme ils adoraient l'autre, qui avait le frère Jean Sablon. Je tire ma révérence, m'en vais au hasard. Sur les chemins de France et de Navarre. Bon, et Lynn, je la vois, il y a Loulou Gasté qui est dans la cabine régie, et je dis à Lynn Renault, je lui dis, oh, qu'est-ce que je suis content de vous rencontrer. Et elle me dit, mais moi aussi, je suis ravi, vous connaissez Loulou? Alors je dis, mais si je connais Loulou, et vous? Je lui ai dit, écoutez, elle était assez vieille pour que je puisse lui dire, sans la gêner, déjà, elle a toujours été vieille, Lynn Renault, d'ailleurs, et jeune à la fois. Jeune et vieille, donc elle n'a pas d'âge aujourd'hui. Elle est formidable, cette femme. Chirac l'adorait. Et elle adorait Chirac. Et là, elle est tombée amoureuse de Macron. Bon. Et de Brigitte, qui est formidable. Bon. Et Lynn, je lui dis... Oh, j'entendais le générique de cette émission. Elle me dit, quelle émission? Une émission où vous racontiez, vous parliez, puis vous chantiez, et l'émission commençait tous les jours avec votre voix. Vous chantiez non pas « Toi, ma petite folie » ou « Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc » ou « Ma cabane au Canada ». La chanson, c'était « Amour toujours ». Chérie, je t'aime, c'est pas nouveau, en fait je t'aime, mais quand pour moi, tu dis cela tout bas, j'ai l'impression de vivre un rêve. Et alors, elle fait « Loulou !» Elle appelle Loulou, qui arrive, qui débarque, et dit « Loulou, écoute le petit !» C'était moi, le petit. Elle dit « Écoute le petit !» Il chante, écoute ça, cette chanson. Il chante « Amour, toujours, chérie, je t'aime ». Et maintenant, je la crois, je la vois, je la rencontre chaque fois. Et on a. Et je vais au théâtre pour la voir, parce que quand même, hein, faut le faire. Vous voyez, quand je disais que c'est bien de vieillir, elle vieillit bien, Lynn Renault. Très, très bien. Dieu merci. Et qu'elle tienne encore longtemps. Et donc, Loulou, maintenant, chaque fois, elle fait revivre Loulou Et chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Ah, tu es là !» « Amour toujours, chérie, et on s'embrasse. » Voilà. J'ai mis ça dans les livres. Oui.
Oui, vous l'avez.
Mais moi, je veux dire un mot des deux, Simone, si vous ne voulez pas.
Si, si.
Ah non, j'ai fait un chapitre sur les deux,
oui,
Simone.
Oui, bah oui.
Non, écoutez, je vais très vite. Les deux, Simone. Non. D'abord parce que ça explique ce que peut être le métier de journaliste et des connivences. Et de... Au fond, un journaliste, c'est un médiateur. Voilà. Moi, quand je m'interroge comme vous, je dis au fond, mais j'ai passé ma vie à quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me dis, au fond, j'ai mis en relation des gens avec des gens. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, j'ai exercé une médiation. Et comme sur mon portable, si vous voulez, j'ai... Il ne faut pas que je le perde, d'ailleurs, parce que je garde tout. Et franchement, moi, je parle librement. Et me parle librement un certain nombre d'hommes politiques, et je suis très content de cette liberté. Mais ça tient à quelque chose. Je ne dis pas, je ne fais pas de livre avec ce qu'ils m'ont dit à tel moment précis. Voilà. Là, il y en a un qui est en plus à France Inter, et je me demande, je dis, mais est-ce que je connais ce garçon ? Il y en a un qui a créé qui pouvait créer un accident politique important. Parce qu'il dit que Bayrou lui a téléphoné pour lui dire « Dites donc, quand est-ce que vous allez me lâcher avec mes assistants, etc. » Alors, Bayrou n'aurait pas dû faire ça. Le Premier ministre, il a jugé qu'il fallait savonner Bayrou, mais il veut pas ça. Moi, je m'en moque. Mais quand je vois que le journaliste va se plaindre, j'étais content d'entendre Bayrou, et je l'ai appelé, je lui ai dit, c'était très bien de faire comme ça. Je lui ai dit, moi, je voudrais qu'on dise ça des journalistes. Et Bayrou a eu un micro à Radio Luxembourg la semaine dernière, et on a le droit de ne pas l'aimer. Et il a dit, mais des gens qui m'appellent 8 fois par jour, dans les médias, vous m'appelez... Et il dit à la petite qui l'interviewait, qui est une charmante d'ailleurs, et qui est très douée, il lui dit, mais vous m'appelez. Seulement, elle, on ne retrouve pas dans les journaux ce qu'il lui dit. Comment un journaliste peut-il dire, mais attendez, peut-il dire, on m'a téléphoné pour me savonner la tête bon, mais ou pour... Alors, ou on a des rapports avec les hommes politiques, ou on ne les a pas. Moi, j'ai connu un journaliste qui s'appelait François Chalet, qui était tout fier. Il me dit, Je lui ai dit, mais t'es jamais aux inaugurations, t'es jamais à la sortie d'un film, pourquoi ? Et Chalet me dit, ah non, mais moi je vais pas à la sortie du film. Pourquoi tu vas pas à la sortie du film ? Parce que je veux y aller en payant ma place. Je me mets dans la situation du spectateur. Et bien ça, c'est une éthique, c'est une morale. Bon, moi je fais pas un livre avec ce que m'a dit machin, ou j'attends des années pour le faire, parce que j'ai des agendas très... Tous les jours, depuis des années, chaque année, quand j'ai entendu un moment essentiel, que je juge essentiel, je le note. Mais je ne dis pas « un tel m'a dit » ou « je », etc. Et donc, qu'est-ce qu'un journaliste qui fait ? On est des médiateurs. C'est-à-dire que moi, au fond, quel message j'ai fait passer aux politiques qui sont enfermés ? Enfermés ! Ils sont formidables dans la conquête du pouvoir. Et puis, quand ils ont le pouvoir, et le pouvoir absolu, ils sont cernés par une bande de gens qui prennent la parole à leur place et qui les enferment. Et ils finissent par ne plus pouvoir téléphoner, par ne plus savoir conduire, par ne plus avoir toujours besoin d'assistants, etc. Et il nous revient, à ma profession et aux journalistes, il nous revient de faire passer les messages en leur disant « Attention, vous avez les sondages et vous avez tout ça, mais sur ce que pensent les gens... » Il me semble que quelqu'un, on ne vous dit pas tout. Et je veux aussi vous dire une chose. Celui qui ne dit pas tout, ou celui qui dit un peu plus, celui qui dit un peu plus, il peut le dire parce qu'il n'est pas payé par celui qui... Ce n'est pas son employé à la communication. Alors moi, je dis, je suis médiateur. J'essaie d'expliquer les politiques aux gens. Par exemple, là, je fais passer un message en disant, vous avez cru que Hollande était nul. Il n'est pas aussi nul qu'on l'a écrit et qu'on l'a dit dans les journaux. Et vous allez vous en apercevoir dans les années qui viennent. Voilà. Et il a fait une chose qui est très difficile à faire aujourd'hui. dans la France d'aujourd'hui, c'est de tenir 5 ans du jour où vous arrivez à l'Élysée et d'aller jusqu'au bout du dernier jour et de tenir à l'Élysée. Moi, j'attends, je ne verrai pas, vous non plus, Madame Metz, peut-être, parce que celui qui est là, il a 39 ans, il peut faire 2 fois 5 ans, il peut faire 10 ans. Si vous, vous verrez, moi, je ne verrai pas, puis ça ne m'intéressera pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous parler des deux Simone.
Voilà. Deux Simone pour conclure.
Et je conclue avec mes deux Simone. Il y avait Simone Veil et Simone Signoret. Et quand Simone Signoret, qui savait quelle était ma relation avec Simone Veil, mais qu'elle me parlait, elle disait avec sa voix, oh non, elle disait, moi Simone Veil, j'achète pas, Tu sais, j'achète pas, je prends pas, je me parle, pareil comme ça. Je disais, vous avez tort. Simone, vous avez tort. Et Simone Veil n'avait absolument pas de sympathie non plus particulière pour Simone Signoret. Bon, elle était, elle est, elle vit. Dieu merci, elle vit. Mais, enfin, mal. C'est même triste de voir une femme comme ça. Et bon. Et Simone Veil, en pleine gloire, ministre, adoré des Français, mais pas adoré des hommes politiques qui ont tout fait pour... Moi, j'ai rêvé que... Je me disais, je lui ai toujours dit, Simone, tenez bon, vous serez présidente de la République dans ce pays. Il m'a toujours dit, je ne le serai jamais, parce que vous ne les voyez pas. Non. Attends, t'es très bien, mais t'es une femme quand même, hein, on ne voit pas... Derrière. Plus tard. Et il n'y a pas de plus tard. Et Simone Veil n'aimait pas Simone Signoret. Eh bien, un jour, j'ai pu, avec l'accord des deux, les inviter à déjeuner à la campagne, où nous avions, pas très loin, dans l'Eure-et-Loir, pas très loin de Paris, une petite datcha avec elle. Donc, elles venaient toutes les deux et tout ça. Et je dis, ça va être... Je ne sais pas comment ça va se passer, ce déjeuner. Il y en a chacun avec... Simone venait avec Antoine Veil. Et tout. Je dis, mais la rencontre va être intéressante. Et la rencontre a été rudement intéressante parce que Simone Veil est arrivée avec un gros livre, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Et la première chose qu'elle a faite, elle avait son petit sac avant même de poser ses affaires. Elle est arrivée, elles se sont saluées, on dit bonjour à tout le monde, avec des sourires, c'était plutôt bien. Et Simone Veil a dit, vous voudrez bien me dédicacer mon livre tout à l'heure. Et Simone Signoret l'a fait tout de suite. Et comment dire ? Oh, c'était magnifique, ça m'a ému et j'y pense et je me suis senti assez proche des deux pour mettre un possessif et faire un petit chapitre sur
vos deux Simone.
Mes deux Simone et Simone Veil, dont je sais à la fois ce qu'elle a enduré avant d'être Simone Veil. Et elle est toujours restée la petite niçoise qui, l'année du bac, va avec ses copines sans étoile jaune et prétend sortir, se sent assez libre pour sortir et se retrouve dans un train qui la conduit avec sa mère. Et elle aussi, elle a mis des années à accepter d'écrire que c'est la Polonaise qui l'a sauvée au moment de la sélection, en la voyant et en lui disant « Toi, viens avec moi, tu es trop belle pour mourir. » Et Simone Veil, qui avait sa maman à côté d'elle, a dit à la Polonaise Capo qui l'emmenait, « Ah oui, je viens, mais avec ma mère, elle s'est accrochée à sa mère, et Simone a sauvé sa mère. » tous les ans, et Simone s'est retrouvée dans un baraquement à Auschwitz, et elle est devenue amie, elle, qu'on a toujours vue, avec son chignon bien coiffé. Moi, je la voyais chaque année à un déjeuner qu'avait l'Union des déportés d'Auschwitz, où j'ai l'honneur d'être invité, et je voyais qu'il y avait des femmes du peuple aussi, dont une femme qui était concierge et qui vit toujours, et que Simone Veil allait avec sa voiture, avec chauffeur, et allait voir régulièrement. Et cette femme, ce n'est pas une sainte, mais c'est une femme qui est passée de l'ombre, du plus noir à la lumière, mais qui est toujours restée une femme de vérité et une femme admirable, qui a tellement fait pour les femmes, que les femmes d'aujourd'hui continuent à dire... C'est notre icône, on lui doit beaucoup, elle nous a, et c'est vrai. Et donc, elle est ma Simone. Quant à Simone Signoret, moi, je l'ai vue souffrir, parce que même si elle ne l'a pas montré, elle ne détestait pas le raconter, elle disait, oui, d'accord, moi, j'ai été cocu, je ne suis pas la seule femme cocu au monde, mais j'ai été cocu par une amie, parce que j'aimais Marilyn, et j'aimais, etc. Et on s'est retrouvés. Mais moi, quand j'ai été cocu, le monde entier l'a su. Malheureusement, Simone, elle n'a pas vécu assez longtemps pour qu'elle puisse lui dire, qu'on puisse lui dire aujourd'hui, Simone, vous n'en faites pas, vous n'en faites pas. Hein. Aujourd'hui, tout est sur la table et tout le monde sait tout. Et il y a même des journalistes qui écrivent ce que moi, je ne ferai jamais. Je vais le plus loin possible dans la connaissance des hommes politiques que je rencontre, je fréquente à distance, toujours à distance, mais je fréquente avec plaisir, mais jamais je m'arrête à la chambre à coucher. Autrement dit, dans mon livre, il y a très peu d'érotisme. Et donc, vous n'y retrouverez pas ce que vous lisez dans Gala. Mais je sais, hein, je sais même des choses qu'ils n'écrivent pas.
Yvon Levaille, merci.